Les résidences pour la résilience, mini-osance, épisode 2, focus agriculture.
Les résidences pour la résilience, c'est une série audio en immersion produite et réalisée par La Traverse. Le but, rendre compte pendant un an de notre travail d'accompagnement de trois territoires du Poitou, ici la commune de Migné-Auzance. Avec l'engagement et la volonté des forces vives, nous tentons de développer des dynamiques de transition qui répondent aux besoins du territoire.
Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la question de l'agriculture et de l'alimentation. En effet, dans le cadre de la transition de la commune, comment mettre en place un approvisionnement alimentaire de proximité qui propose une alimentation de qualité, accessible à toutes et tous, et garantissant des conditions de vie et de travail décentes et durables aux agriculteurs et agricultrices du territoire. Vaste question. L'agriculture et l'alimentation sont des sujets centraux de la transition écologique car ils sont très liés aux enjeux du changement climatique et de consommation d'énergie. Aujourd'hui, à Migné-Auzance comme ailleurs, la majorité des aliments que nous consommons sont produits dans d'autres régions, voire dans d'autres pays, et acheminés bien souvent par camion jusqu'à nous. La circulation des camions pour tout type de marchandises représente 27% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Ainsi, relocaliser la production alimentaire est une manière de consommer moins d'énergie et d'être moins dépendant des énergies fossiles pour répondre à ce besoin de base qu'est l'alimentation. D'un autre côté, le monde agricole est très directement touché par le changement climatique et va devoir s'y adapter dans les décennies à venir. Dans cet épisode, nous avons voulu en savoir plus sur les enjeux alimentaires et agricoles de la région. Nous avons commencé par aller voir Laure Courgeot, la représentante du CIVAM, donc le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural de la Vienne. Nous avons également interrogé Fabrice Bonifay, responsable du plan alimentaire territorial de Poitiers.
Sur l'adaptation au changement climatique,
Laure Courgeot.
On est vraiment, enfin, les agriculteurs, ils y sont pleinement confrontés en fait au changement climatique et tous les ans entre là, on a eu un printemps très pluvieux, on a aussi eu des étés avec des très fortes sécheresses. Ça remet vraiment en cause leurs pratiques, sachant que l'échelle de temps de l'agriculture, et notamment dans les systèmes d'élevage et dans les systèmes céréaliers, il est sur une année, en fait, parce qu'on sème en septembre ou en novembre et on récolte qu'en juillet de l'année d'après. Donc, le temps, il est long, en fait, et pour effectuer des changements sur son exploitation, il faut aussi respecter ce temps qui est long. Alors que le changement climatique, il arrive, enfin, il est visible finalement de façon assez prégnante là, et s'adapter à toutes ces questions de sécheresse par exemple, c'est pas si facile. Donc nous, on a quand même des agriculteurs qui font un travail là-dessus et qui s'adaptent vraiment, par exemple la gestion du pâturage pour des systèmes pâturants, elle est pas si facile quand tout l'été on a une période de sécheresse et qu'en fait il y a plus d'herbe mangeable par les animaux dehors. Donc ça veut dire qu'il faut revoir sa façon, les espèces qu'on implante dans ces prairies, qu'il faut qu'on revoie peut-être des semences qui soient plus adaptées à ce type de climat-là. Et ça se fait sur un temps long aussi, quoi. En maraîchage, il y a aussi tout un enjeu autour de, pareil, des espèces qui sont, de légumes qui sont implantés, qui soient plus résistants possible à la sécheresse. Et puis autour de la question de l'eau et de l'utilisation de l'eau.
Une étude avait été réalisée par le cabinet Utopie en 2017 à l'échelle nationale sur le degré d'autonomie alimentaire des aires urbaines françaises. Eh bien, l'aire urbaine de Poitiers, au sens de l'INSEE, n'atteint que 1,58% de degré d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que la part du local dans la totalité des produits agricoles qui sont incorporés dans les différents produits alimentaires, bruts, transformés ou non, qui sont consommés par les ménages du territoire, ne représente que 1,58%. C'est encore assez marginal. La moyenne nationale des aires urbaines françaises, c'est 2,1%. En fait, conforter des filières alimentaires locales, ça permet aussi de réduire l'impact environnemental de notre alimentation, dans la mesure où ça représente environ 30% des émissions de gaz à effet de serre nationales et mondiales. L'alimentation, la filière alimentaire, ces effets de serre, ces gaz à effet de serre sont responsables du du changement climatique. Et donc c'est en cela que le projet alimentaire territorial est non seulement le volet agriculture-alimentation du plan climat et énergie territorial voté en 2019 par Grand Poitiers, mais aussi participe à des dispositifs régionaux comme la feuille de route Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, réapprendre à manger des fruits et légumes de saison, privilégier des produits issus d'une agriculture de proximité, ça peut réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au chauffage des serres, quand on mange des produits qui ne sont pas des produits de saison, au transport, à la réfrigération des denrées. On estime qu'un yaourt produit par l'industrie agroalimentaire, un yaourt industriel à la fraise, parcourt en moyenne 6000 km avant d'arriver sur notre table. Donc c'est en cela qu'on va chercher, avec le projet alimentaire territorial, à consolider, conforter des filières alimentaires de proximité qui soient suffisamment bien organisées pour qu'on puisse être certain de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation et l'impact carbone de chaque ménage. Donc il est absolument nécessaire de prendre en compte le risque de rupture d'approvisionnement de la chaîne alimentaire, quel qu'il soit. Là, ça s'appelait Covid-19. C'était lié à un comportement de consommateurs qui tendaient à faire des stocks au début d'une période d'incertitude qui était le premier confinement. Demain, cela pourra être autre chose. Donc, il est absolument nécessaire de conforter en fait des filières alimentaires locales pour accroître une souveraineté alimentaire, si on ne veut pas parler d'autonomie alimentaire, être en capacité d'être plus réactif parce qu'on connaît tous les acteurs du champ à l'assiette et on est en capacité de les interpeller et de les amener à adapter leur mode de fonctionnement habituel pour répondre à une crise. Donc ça, c'est un vrai enjeu de résilience sur le territoire que d'être en capacité d'être très réactif. Les territoires qui se sont le mieux sortis du premier confinement et de cette rupture de l'approvisionnement alimentaire pour les personnes les plus démunies sont plutôt des territoires qui étaient déjà engagés, très avancés sur des projets alimentaires territoriaux, parce que les pouvoirs publics connaissaient les acteurs de la filière alimentaire et avaient la capacité d'aller les chercher, de les interpeller, de construire avec eux des solutions nouvelles. Dans le cas de Grand Poitiers, on a mis en place un dispositif dans le premier confinement d'approvisionnement de l'aide alimentaire par les producteurs et les commerçants qui étaient impactés directement par la fermeture des marchés. On doit revisiter ce système à l'échelle du territoire, chercher des alternatives. C'est par exemple des potagers municipaux ou des potagers menés par des chantiers d'insertion qui permettent ainsi de produire à moindre coût des produits néanmoins de qualité et qui peuvent ensuite être commercialisés à moindre coût via les épiceries sociales et solidaires. La différence entre la banque alimentaire de la Vienne, par exemple, et les épiceries sociales et solidaires, c'est que dans les épiceries sociales et solidaires, il y a encore un acte d'achat par le consommateur. On lui propose des produits dans un magasin qui ressemble à un magasin normal, et il a un acte d'achat, même si le produit est à moindre coût par rapport à un magasin classique. Donc il y a un enjeu, en fait, de produire des produits de qualité, un coût qui rémunère correctement l'agriculteur, certes, mais qui permettent aussi d'offrir en fin de course aux personnes les plus démunies un prix abordable pour acheter des produits, des fruits et légumes de saison de qualité malgré tout. Donc c'est tout un système qu'il faut réinventer pour trouver un modèle économique qui permet d'offrir ces produits de qualité à moindre coût. La première orientation du projet alimentaire territorial, c'est instaurer une véritable démocratie alimentaire sur le territoire. C'est un vrai enjeu que de redonner aux citoyens les moyens d'agir sur leur alimentation, et ce à titre individuel comme collectif. C'est-à-dire être conscient de ce que l'on mange, être conscient des conséquences en matière de production d'émissions de gaz à effet de serre, être conscient des conséquences sur la santé, c'est le lien avec la santé environnement, la santé nutrition, et également agir sur l'alimentation en privilégiant des fruits et légumes de saison issus d'une agriculture nourricière locale.
Après cette présentation générale, nous sommes allés voir à quoi ressemblait l'agriculture plus précisément à Migné-Auzance, où nous avons rencontré Laurent Sourisseau, président de l'ADAMA, donc de l'Association de défense des agriculteurs, Demigny-Auzance.
Donc voilà, moi je m'appelle Laurent Sourisseau, je suis agriculteur à Migny-Auzance depuis 1988. J'ai pris la suite de mon papa qui est arrivé là en 1956. Et donc moi j'ai toujours vécu sur la commune, je suis né à Migny-Auzance et je demeure à Migny-Auzance et j'exerce mon métier à Migny. Donc nous on est installé là depuis 1988, nous avons donc une exploitation qui a une vocation de semencière, donc où nous produisons pour une grosse partie de l'exploitation de la semence. Donc de la semence, plusieurs espèces, en multi-espèces, majoritairement de la semence de maïs, parfois des potagères, parfois des semences florales, ça dépend des années, ça dépend des contrats. Ça, je dirais que ça dépend des rotations, puis voilà, ça dépend des années, quoi. Une partie de l'exploitation est irriguée, bien sûr, parce que pas de production de semences sans irrigation. Hein, c'est une production qui est très liée à l'irrigation. Et puis, autrement, à côté de ça, on fait des céréales pour les rotations, du blé, du colza, du tournesol, des petits pois, des févroles. Voilà, c'est pareil, c'est suivant les années. Je suis associé avec mon épouse. Nous avons également un fils qui est installé juste à côté de nous, qui a repris une petite exploitation il y a 4 ans. Donc, on travaille ensemble. Lui aussi, on travaille un peu sur les mêmes domaines, les domaines semenciers puis céréaliers. Et puis, sur l'exploitation, quand on fait le bilan de la main-d'œuvre sur l'ensemble d'exploitation, on a, avec les saisonniers, on a à peu près une exploitation qui fait 7 équivalents temps plein. Voilà. Migny-Auzance, c'est historiquement une commune où, en fait, on a des paysages qui sont ouverts. C'est-à-dire on a des terres où on a très peu de haies, très peu de bocage, et ça tient d'abord au sol. On a des sols superficiels, séchants, mais des sols sur lesquels on peut quasiment tout cultiver, avec très peu d'élevage parce que des sols qui sont superficiels, c'est difficile de faire de l'élevage. Donc historiquement, il y a pas beaucoup eu d'élevage sur Migny. Et historiquement, c'est une commune où il y avait beaucoup de vignes au début du siècle. Migny-Auzance, c'est une commune où il y a une vocation agricole historique, hein, qui a toujours été là, qui se fait grignoter petit à petit par la ville, par l'urbanisation. Et grosso modo, depuis les années 70, on a la perte lié à l'urbanisation, c'est-à-dire construction de logements, hein, pour faire de l'habitat, qui est de, je regarde ce que j'ai remis ce matin, ce que je vous avais envoyé, ce que je n'ai pas de mémoire, voilà, c'est ça, à peu près 130 hectares sont partis à l'urbanisation, donc des terres agricoles, hein, vraiment là, c'est de la perte nette, des parcelles qu'on cultivait, moi j'ai cultivé des parcelles là aujourd'hui où il y a des maisons dessus, hein, et on est tous les agriculteurs de la commune savent ça. À peu près, là j'ai un peu de mal à estimer parce qu'il y a des choses encore en cours, mais on serait entre 170 et 200 hectares de pertes de surface de terres agricoles qui sont liées à la création de zones industrielles. Voilà, Migny est une commune où il y a eu énormément de développement de zones industrielles, là, surtout les dernières années. Et puis, ce qui concerne les extensions de voirie, les ronds-points, les bretelles de rocade, etc., on serait aux alentours de 75 à 100 hectares. Là, c'est un peu difficile à estimer ce qu'il faut le mesurer. Donc, c'est quand même important. C'est un paysage agricole qui se grignote d'année en année. Alors, il y a des aspects positifs parce qu'on est tout près de la ville. Donc, tout ce qui est développement de circuits courts, de vente directe, évidemment, on est très avantagé par rapport à des collègues qui sont à 50 km, c'est évident. Donc ça c'est quand même le principal atout. Après il y a des freins, il ne faut pas se le cacher. L'urbanisation fait que on est très vite concerné par d'éventuelles nuisances, des plaintes, des problèmes de voisinage, hein, que engendre le métier, hein, que ça soit au niveau des animaux, le bruit des tracteurs, éventuellement les traitements phytosanitaires. Voilà, on est confronté de toute façon très clairement à une pression qui parfois, voilà, alors c'est pas souvent, faut pas généraliser, mais qui parfois, de fois, est dur à vivre. Alors, Mini, on a de la chance. On a de la chance parce que on a encore, d'abord, on a encore des agriculteurs. C'est pas le cas de toutes les communes. On a encore des agriculteurs et on a plutôt des jeunes agriculteurs. Et ça, je peux vous dire vraiment sincèrement, c'est très précieux. Dans une commune comme Minier, qui est en périurbain, c'est très précieux parce que ce n'est pas le cas partout, croyez-moi, on fait exception. On est même assez fiers de ça. Pourquoi ? Alors, ça s'explique parce qu'il y avait des exploitations familiales à reprendre et puis il y avait des jeunes ici et ils ont pu s'installer. Et voilà, et franchement, c'est bien.
Laurent Sourisseau constate certains effets du changement climatique.
Première chose la plus flagrante, les dates de semis se décalent et les dates de récolte se décalent. On récolte de plus en plus tôt globalement. Grosso modo, en 30 ans, allez, je dirais qu'entre une semaine et deux semaines, on a gagné. Voilà, les moissons, historiquement, chez nous, c'était plutôt à partir du 14 juillet. Les moissons, aujourd'hui, au 14 juillet, souvent, c'est fini. Donc on a, ça, c'est le premier constat. C'est le constat le plus flagrant, mais qui n'est pas insurmontable. Hein. C'est pas, on s'adapte, on sème des variétés qui s'adaptent. On a des variétés de plus en plus précoces ou tardives dans certains cas. Donc là, nous, on n'est pas inquiets de cela. La deuxième chose que l'on constate, ce sont quand même des sécheresses qui sont de plus en plus... Alors, je ne dirais pas plus, de plus en plus comment dire, fréquentes. La fréquence, non, parce que la fréquence, moi, je n'ai pas l'impression que c'est plus fréquent. Par contre, c'est plus intense. Malgré tout, on essaye quand même de faire au maximum, les agriculteurs sur la commune essayent de faire au maximum tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions. Nous faisons tous partie dans la commune de Migny-aux-Anses d'un GI2E que nous avons monté il y a déjà 4 ans maintenant, groupement d'intérêt écologique et économique et environnemental, pardon, où donc tous les agriculteurs de la commune sont réunis pour, avec d'autres, hein, il n'y a pas que la commune de Migny, le GI2E a un périmètre d'intervention sur la vallée de l'Auzance et la vallée de la Palue, un petit peu plus au nord. Et là, on a une trentaine d'agriculteurs qui se sont réunis pour essayer d'améliorer leurs pratiques, et notamment avec un thème central, qui est le thème de l'eau. Et puis, en particulier la vallée de l'Auzance, on a des contraintes avec les périmètres de captage d'eau potable. De Chalandray jusqu'à Migny, on a 5 périmètres de captage d'eau potable. Et donc, on se doit d'être prudent et d'être précautionneux pour préserver la qualité de l'eau. Et cette prise de conscience a abouti à se réunir pour créer un groupe. Et donc, le GI2E vise à promouvoir, expérimenter, mettre en place, mettre en pratique des pratiques agricoles en lien avec la qualité de l'eau, avec la quantité d'eau aussi, parce que les deux sujets sont liés. Et donc, depuis plusieurs années, on a enclenché ça, on commence à avoir des bons résultats.
Il existe aujourd'hui une dizaine d'exploitations agricoles à Migny qui occupent l'équivalent d'une vingtaine de personnes à temps plein. La majorité des exploitations produisent des céréales et les distribuent plutôt au niveau national. On trouve aussi parmi les agriculteurs de Migny deux éleveurs et quelques maraîchers. Certains pratiquent une distribution très locale. C'est le cas du potager de Sigon, qui produit et vend des légumes, des plants maraîchers et organise des ateliers. C'est aussi le cas du domaine de Malaguet, où se trouve l'Éveil, un potager dans lequel travaillent des personnes en insertion professionnelle. On trouve aussi sur le domaine de Malaguet une production de plantes aromatiques et médicinales. Parmi les éleveurs de Migny, la ferme des chèvres de l'Auzance vend un quart de sa production en circuit court. Mélanie nous présente son activité et ses modes de distribution.
Je suis Mélanie Doucino. On est sur la ferme de l'Auzance, à Migny-aux-Anses. On a à peu près 300 chèvres, 180 hectares, dont 80 sur Migny-aux-Anses et le reste sur le Châtel-Rodet. On a 300 chèvres. Je fais du poulet de plein air, la poule pondeuse et je fais des fromages de chèvre. On est arrivé là, on s'est installé ici en 2012. On a repris la ferme d'un monsieur qui nous a cédé sa ferme. Bah, nous, on a trouvé la ferme, s'il y a le répertoire de l'installation, qui est à la chambre d'agriculture, qui liste toutes les fermes avant, en vente. Et du coup, on a trouvé celle-là sur leur site. Donc les céréales, une partie est vendue chez Beauchamp, Négoce, qui est sur Beauchamp, qui est à la Pierrette. Après, le lait, une grosse partie du lait est vendue à Agrial. Donc c'est une laiterie. C'est à fait les fromages soignants. Et après, donc j'en transforme. Et ce que je transforme, je vends à la ferme. Je vends à la ruche qui dit oui et au drive fermier qui se fait sur Poitiers. Ben en fait, c'est une association avec des agriculteurs, producteurs, qui vendent tous leurs produits sur un site internet. Et après, on regroupe tout et les gens peuvent venir le chercher le vendredi après-midi sur Poitiers. Ben en fait, tout ce qui est le drive fermier et la ruche qui dit oui, en fait, c'est les gens qui s'organisent pour tout livrer au même endroit. Ce qui fait qu'on regroupe tous les producteurs ensemble et après, on distribue. Donc ce qui fait qu'il n'y a besoin que 2 ou 3 personnes pour aider à la distribution. Bah, le but, c'est de faire plus de ventes directes. Mais pour l'instant, on peut pas. Les 300 chefs font du lait, donc je ne vais pas faire des fromages pour que je les garde derrière, dans la fromagerie. Donc c'est plus compliqué, mais on va y arriver. Bah, c'est que ça fait que 3 ans que je fais de la vente directe. Donc il faut le temps que ça se développe. Et puis bah, y a déjà pas mal de marchés qui sont déjà pris par d'autres producteurs. Donc, je fasse ma petite place.
Protéger les terres agricoles restantes de l'artificialisation et encourager les habitants à la consommation des produits mini en soie pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent vendre en circuit court semblent donc être des leviers d'amélioration de l'autonomie alimentaire. À côté de ça, l'alimentation est au cœur des préoccupations des mini en soie. Plusieurs répondants au questionnaire diffusé en 2021 ont ainsi mentionné l'envie de pouvoir produire une partie de leur alimentation grâce à des jardins collectifs par exemple, mais aussi grâce à la valorisation des vergers communaux. Plusieurs mentionnent également le fait qu'ils et elles entretiennent des potagers, chez eux ou en collectif, ce qui leur permet de gagner en connaissances et de créer du lien. L'association Le 40 Mars a mis en place un potager collectif. Sébastien Dupuis nous le présente.
Et on a eu l'occasion d'acheter un terrain potager qui donne sur Lausanne, hein, qui n'est pas directement dans le centre-bourg, enfin, qui est juste à côté, qui est à côté du Moulin Vert. Et l'idée, c'était, c'est l'asso qui a acheté le terrain, et c'est de faire un terrain potager collectif qui est géré de manière collective par tous ceux qui souhaiteraient donner un coup de main plus ou moins régulier. Voilà. Et donc on a initié grâce à ce potager un petit cycle qu'on aimerait bien continuer en 2022 de formation à la permaculture. Donc on a eu la chance de rencontrer un jeune homme d'une trentaine d'années qui a une formation d'écologue, donc c'est un scientifique, et qui est très branché permaculture, et qui a accepté de nous accompagner et de nous faire des petites formations sur les concepts de permaculture et on l'espère sur un accompagnement dans la durée pour au-delà de la partie théorique de mettre en pratique et de voir avec lui les différents aspects que ce soit les plantes, le compost, les engrais verts, enfin etc. On est quand même fondamentalement des êtres sociaux, donc si on va s'en sortir par le collectif, quoi, et pas on pourrait éventuellement construire un bunker et puis mettre 2 ans de nourriture dedans, mais au bout de 2 ans, il n'y a plus de nourriture, et puis là, donc c'est à la fois une adaptation peut-être à des catastrophes à venir, mais aussi parce que nous, parce que ça correspond à des attentes qu'on a, parce qu'on trouve que c'est vachement cool d'avoir des voisins qui viennent et qui vous filent 1 kilo de cerises ou qui et à qui on peut dépanner ceci, cela, prêter la tronçonneuse et puis voir demain si les choses évoluent bien, carrément faire de la mise en commun au-delà, et voire peut-être faire des investissements communs, quoi, de choses qu'on ne pourrait pas s'acheter à titre individuel ou qui n'ont aucun intérêt, parce que en fait, c'est des choses qu'on utilise deux fois dans l'année et voilà, il n'y a pas d'intérêt à tous posséder le même truc qu'on utilise presque jamais, quoi.
Près d'un tiers des répondants mentionnent leur intérêt pour consommer une alimentation locale, respectueuse de l'environnement et moins carnée. À peu près la même proportion de personnes mentionnent leur difficulté à effectivement consommer des produits locaux, du fait de la difficulté de les trouver. Nombreux sont celles et ceux qui souhaiteraient que le marché s'étoffe avec des produits locaux ou qu'un magasin de producteurs en fasse la distribution. Le centre socioculturel a aussi mis en place le projet Défi ton assiette avec des familles niensoises pour les accompagner dans l'analyse et l'amélioration de leurs habitudes alimentaires. Nathalie Alono, directrice du centre socioculturel, nous présente le projet.
Eh ben, t'as 7 familles qui se sont impliquées là-dedans, elles sont au taquet. Et tu vois, c'est des familles, quand tu les rencontres, qui viennent d'horizons complètement différents, de statut social complètement différent, mais alors une mixité, ça va de... Je ne sais pas, la plus jeune, y a des gamins dedans, mais on s'en fiche. On va dire la plus jeune maman a peut-être 30 ans. La personne la plus âgée doit avoir 60 et quelques, 65, elle est à la retraite. Et ce groupe-là, ils ont ouvert leur truc. Et du coup, ils réfléchissent à comment je consomme. Parce qu'à un moment, voilà, c'est sans jugement, c'est sans rien. Tu veux le donner, tes documents, tu les donnes. Si tu ne veux pas, tu ne les donnes pas. C'est avec eux qu'on doit aller ramasser les champignons. Là, ils ont vu une nutritionniste la semaine dernière. C'est effectivement juste, on se donne l'opportunité de réfléchir. Ça ne va pas changer la face du monde et ça ne va peut-être pas changer leur vision des choses, mais au moins, on leur a donné cette opportunité sur un temps donné. On ne vous juge pas. Voilà. Si tu continues à acheter du McDo, c'est ton droit. Tu fais ce que tu veux. Mais à un moment, juste regarde. On baisse, effectivement, on te dit ouais, mais acheter bio, c'est plus cher. Pas forcément. Mais pour ça, il faut qu'on te le montre. Donc, comment est-ce qu'on expérimente sur un laps de temps? Et que tu te rends compte, voilà, et tu fais, ah oui, finalement, oui. C'est 4 mois. Dès qu'ils font des courses, donc ils analysent leur ticket, ils analysent chaque produit, donc ça prend du temps. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai acheté? Est-ce qu'il y avait du plastique, il y avait un emballage plastique? Rechercher la provenance, est-ce que c'est local, pas local? Bio, pas bio? Et tout le monde fait son petit exercice. Et c'est là où, si tu veux, tu te dis... En termes de lien social, il n'y a aucune des personnes qui ne se connaissaient. Je pense que d'ici la fin du truc, ils sont potes à la vie et à la mort. Eh bien, tant mieux. Enfin, tu vois, c'est là où nous, on remplit notre mission. On se fait rencontrer des gens qui ne se connaissent pas, qui, de fait, n'ont aucune raison de se rencontrer, parce qu'elles évoluent pas dans les groupes sociaux similaires, qui s'intéressent un peu là-dessus. Mais tu vois, quand les filles, elles sont allées dans les quartiers, tout le monde avait l'air intéressé sur l'idée de le faire. Ah, ça m'en branchait bien. Là, je suis pas prêt. Mais... peut-être qu'on en sera une deuxième saison, on ne sait pas.
Les idées ne manquent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble? Si vous avez envie de vous investir sur cette question, la première session démocratique traitera du sujet de la production alimentaire au sein de la ville. En pratique, cela veut dire que, entre mars et septembre, un groupe d'élus et d'habitants, volontaires et tirés au sort, vont imaginer des actions à mettre en place pour végétaliser la ville et la rendre plus comestible. Tout le monde est bienvenu. Vous souhaitez participer? Écrivez-nous à l'adresse en lien dans la description de l'épisode. À bientôt! Les résidences pour la résilience, mini-osance épisode 2, focus agriculture.
Un épisode réalisé par Alexia Beaujeu pour Des résidences pour la résilience, une série signée La Traverse. Les liens et informations relatives à ce projet sont disponibles en description de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, discuter, échanger, n'hésitez pas à nous écrire.